France Culture.
À voix nue, Alexandre Amiel.
Richard Malka, avocat.
Bonsoir Richard Malka. On vous avait laissé jeune étudiant en droit, qui avait effectué par le hasard d'un tirage au sort un stage à la 17e chambre du tribunal de Paris, dite chambre de la presse, où les choses commencent à se préciser pour vous. Dans ce deuxième épisode que j'ai intitulé « Le goût du combat judiciaire », on va se rendre compte que cette fois, ce n'est pas par hasard que vous allez frapper à la porte du cabinet de Georges Kiechmann, grand avocat du monde de l'édition et de la presse, et à l'époque ministre délégué à la communication. Mais déjà une question, avant même de penser à ce cabinet, pourquoi cette spécialité plutôt que le droit pénal, par exemple ?
Non, mais c'était le droit pénal, en fait, ce que je voulais faire. Quand je réussis mon concours d'avocat, j'appelle le seul avocat que je connais, qui est celui chez qui j'ai déjà fait un stage complètement par hasard. Et lui me dit, moi j'ai fait l'école avec celui qui est devenu le principal collaborateur de Georges Kiechmann, qui était devenu ministre, et donc tu peux te recommander de moi pour demander un stage, mon stage avocat de l'école. Donc, je me présente, je suis pris, un peu miraculeusement, surtout parce que il y a un référé d'horreur qui est tombé. En fait, ils n'ont pas trop le temps de me recevoir. Et après m'avoir fait patienter 2 heures, probablement pour s'excuser, ils me disent « Bon, on vous prend », sans même passer d'entretien. Et ça commence comme ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je travaille pour la première fois de ma vie comme un fou. Pendant mon stage, je donne satisfaction. Il y a une rencontre qui se fait entre moi et le droit, et la matière judiciaire, plus que le droit, la stratégie, la conviction, les arguments à trouver, l'écriture, qui reste très importante de conclusion. Et ça fonctionne, et je suis embauché comme collaborateur. Et là, c'est parti. Mais y compris pendant mon stage, je me dis, j'ai toujours en tête de devenir soit journaliste, soit professeur de droit. Mais là, je suis sur les rails. Et là, je me dis, c'est pas possible. On m'offre un job dans le sein des saints des cabinets d'avocats. Je peux pas refuser. Donc, évidemment, j'accepte. Ça correspond à l'idée de la réussite qu'on a bien intégrée dans mes cellules. Et je dis OK, et c'est parti. Et en fait, je suis là où je devais être.
C'est la première fois que vous vous sentez à votre place.
Ah oui, je me sens à ma place. De toute façon, j'aurais pas eu le temps de sentir le contraire, parce que là, je vais travailler comme un malade. Là, je vais travailler 12 heures par jour, week-end compris. C'est un métier dur à apprendre. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures de travail. C'est complexe. Il y a une infinité de choses à maîtriser. La cuisine du palais de justice, la stratégie, le droit, la conviction, la rhétorique, le rapport avec les magistrats, avec la déontologie, avec les autres avocats. Il faut des années pour maîtriser tout ça.
Et donc, vous l'avez dit, vous débutez très jeune, à 23 ans, chez Georges Kiechmann.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez appris, Richard Malka, en tant qu'avocat?
J'avais pas de temps à perdre. Il fallait que je devienne autonome. Financièrement. Et puis j'avais envie d'avoir un appartement, d'avoir tout ce à quoi j'avais pas accès précédemment. Il fallait aller vite.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez appris aux côtés de Georges Kiechmann? En quoi ces 7 années à ses côtés sont-elles déterminantes pour l'avocat que vous êtes devenu?
Lui, il est pas là quand j'arrive.
Il est pas là au début.
Non, parce que il est ministre. Et puis il va revenir en cours de route, 2 étages au-dessus. On a déménagé de la rue de Tournon au boulevard Saint-Germain entre-temps. Et je vais avoir des rapports avec lui épisodiques. J'ose même pas lui parler. C'est une star absolue.
C'est Dieu.
C'est Dieu. Et puis il est tellement brillant. J'ai une telle admiration pour. Il est au fait de sa gloire. Mais je travaille sur 1, 2, 3 dossiers avec lui. Et puis je sais pas, quelque chose se passe. On s'entend bien. Et donc. aussi bien à ses côtés quand je vais le voir plaider, ce qui était incroyable, vraiment incroyable. Il y avait lui et tous les autres. Et dans le cabinet où j'étais, qui était donc son ancien cabinet, j'apprends l'exigence, j'apprends à ne laisser aucune difficulté de côté, à les prendre à bras-le-corps quand elles se présentent dans les dossiers, à pas les éviter. J'apprends à écrire, j'apprends à plaider, j'apprends tout, en fait. J'apprends à travailler et j'apprends surtout à quel point c'est écrasant d'avoir ces responsabilités-là d'avocat. Vous avez la vie d'être humain sur vos épaules quand vous plaidez pour un père qui veut voir ses enfants, un salarié qui est licencié et qui a besoin d'indemnité pour vivre, quand vous plaidez pour ce que je faisais beaucoup de pénal, pour des gens qui risquent la prison. J'allais en prison tous les week-ends voir mes clients. Je faisais beaucoup de comparutions immédiates.
C'est pour ça que vous n'avez pas voulu faire de pénal. Vous vouliez pas cette responsabilité-là.
Alors j'ai arrêté à un moment. C'était trop dur pour moi. Je le vivais trop mal. Ça me peinait. J'avais pas la bonne distance. Ce qui est le plus dur au pénal, c'est d'avoir la bonne distance. C'est-à-dire que si vous êtes trop près, vous souffrez trop. C'est pas possible, c'est pas tenable. Ou alors vous vous éteignez, vous assombrissez. J'avais pas envie de ça. Ou alors vous êtes trop loin et vous devenez, pour vous protéger, et vous devenez cynique, insensible, trop loin de vos clients. Il faut être au bon endroit et je le trouvais pas. Mais moi j'étais trop, c'était trop dur. Donc à un moment, après quelques années, quand je me suis installé à mon compte, petit à petit arrêté de faire du pénal ordinaire, en tout cas, d'aller dans les prisons, d'avoir des clients voleurs, agresseurs, pour faire du droit de la presse quasi exclusivement. Et je me disais que là, je serais protégé parce que je défendais plus des êtres humains qui risquaient des choses graves. L'enjeu, c'est quelques milliers d'euros dans cette matière-là. Je défendais des principes, des causes, ça m'allait bien. Je pensais que ça me protégerait. Ça, c'est un peu raté, ça.
Pour rester encore un instant sur Kiejman, vous parlez souvent de lui comme d'une figure presque paternelle.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qui vous a transmis au-delà du droit ?
Alors, en fait, on s'est rapproché davantage quand je suis parti, d'ailleurs un peu grâce à lui. Parce qu'à un moment, dans le cabinet où j'étais, on parlait d'une association, et puis je savais pas trop quoi faire, ou alors le rejoindre deux étages au-dessus. Et lui, et je l'ai déjà raconté, je lui ai demandé conseil. J'étais un peu... Il y a des moments de vie comme ça, où on sait qu'on a un tournant et c'est tétanisant. Hein. On sait que ça va engager sa vie et on a besoin de parfois d'un mot. Et lui m'a dit, mais Richard, dans la vie, il faut s'amuser. Et là, j'ai su ce que je devais faire. Je devais partir et lancer un cabinet avec deux copains et puis m'amuser, quoi. Prendre mon risque. Puis j'avais pas de famille à nourrir. Je pouvais prendre ce risque-là.
Donc là encore, vous avez suivi le mouvement.
J'ai suivi en tout cas le mouvement qui l'a impulsé, mais ça a résonné en moi. Et à partir de ce moment-là, on a continué à se voir, à devenir de plus en plus proches, de plus en plus amis. Je plaidais aucune affaire importante sans lui demander conseil. Quand l'affaire des caricatures arrive, il m'appelle pour me dire, ah ben moi j'aimerais bien être votre collaborateur sur cette histoire-là. Et donc je suis tellement ravi parce que c'est trop gros pour moi tout seul, et puis ça me rassure qu'il soit là. Donc on le plaide tous les deux et on va plus jamais se quitter, et ça va devenir effectivement, il y a une espèce de relation filiale qui va se créer jusqu'au bout, et il me manque terriblement. Ça a été c'était un personnage. J'ai eu de la chance, hein, dans ma vie, voilà, c'était honnêtement, vous pouvez pas imaginer que je deviendrais aussi proche de quelqu'un comme Georges Kiejman, puis de Robert Badinter, d'Elisabeth Badinter, enfin de Cavana, de Cabu. En fait, j'ai rencontré et je suis devenu intime avec tous les gens que j'admirais quand je regardais Apostrophe et Jacques Chancel petit chez mes parents. C'est un rêve. C'était incroyable, quoi. Donc j'ai vécu un rêve, en fait, de cette proximité, de la chance que j'ai eue, de qu'ils me transmettent leur savoir, leur expérience. Et avec Georges, puis c'était un homme romanesque, un homme à femme, il y avait toutes les plus belles femmes, les actrices. C'est bon, je regardais ça avec des paillettes dans les yeux. Il était ministre. Alors, je sais pas ce qu'il a fait de mieux, hein, il le disait lui-même, hein, d'être ministre. C'était le plus grand avocat. Il avait une éloquence incroyable. Il crucifiait ses adversaires. Il était méchant, il était drôle, il était voltairien. C'est évident, c'était. Et il était tendre et généreux. Et je suis resté à ses côtés jusqu'au bout. Vraiment, c'est un immense manque.
En 99, donc vous prenez votre indépendance, vous montez votre cabinet,
oui,
pour mieux vous rapprocher de Georges Kegelmann, visiblement. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous avez commencé à vous faire un nom et à traiter de plusieurs grandes affaires. On parlera de Charlie dans un épisode à part. Mais donc il y a, à partir de ce moment-là, un certain nombre de procès marquants ont lieu dans les années 2000. Il y a la crèche Babylou, l'affaire Bettencourt, le couple Alter contre Rachida Dati, Raphaël Enthoven contre la France Insoumise, mais aussi, vous avez défendu Clearstream contre Denis Robert, DSK dans l'affaire du Carlton de Lille.
Ça, on m'en a voulu, DSK. Oh là là.
mais dans votre premier roman, le personnage d'avocat dit qu'il défend des causes plutôt que des gens. Diriez-vous que dans toutes les affaires que je viens de citer, c'est le cas?
Ah oui, dans toutes celles-là, oui. Oui, vraiment. Oui, parce que... alors, DSK, lui, il risquait plus, puisque ça n'en était pas dans des procès de presse. Il était poursuivi, c'était dans l'affaire du Carlton de Lille, qu'il était poursuivi sur un chef d'inculpation qui, à l'évidence, ne tenait pas debout, puisqu'on lui reprochait un délit de proxénétisme. Donc lui, là, il y avait un vrai risque pénal. Donc il y avait un risque humain. Mais moi, j'étais en plus dans toutes ces affaires-là. Et dans Bettencourt, pareil. J'étais en plus de l'avocat vraiment pénaliste, qui, en l'occurrence, pour DSK, était Henri Leclerc. Moi, mon volet, c'était le volet des principes, puisque j'étais déjà plus pénaliste. J'étais déjà autre chose. Et on me prenait pour un volet un peu principiel, un peu communication aussi, parce que je savais faire. Donc j'étais dans mon rail d'avocat de cause plus que d'être humain.
Donc par exemple, quand vous arrivez dans la crèche Babylou, c'est pour poser un principe.
Oui, évidemment. Alors j'y arrive par Elisabeth Badinter, qui était marraine de cette crèche. C'est une crèche laïque fondée par une exilée chilienne, très attachée à la laïcité, au féminisme. Et le principe de cette crèche était qu'elle était ouverte 24 heures sur 24 pour permettre précisément, en particulier aux femmes qui travaillaient la nuit, les infirmières, qui avaient des travaux durs, de pouvoir continuer à travailler en mettant leurs enfants à la crèche. Et donc, cette exilée chilienne très à gauche avait instauré un principe de neutralité religieuse au sein de cette crèche. Et un jour, une salariée de cette crèche, qui avait quitté la crèche pour faire des enfants, donc elle était en congé maternité depuis 3 ou 4 ans, quand elle revient, elle décide de porter le voile, et ça ne correspond pas à l'option de neutralité religieuse de cette crèche, et s'ensuit un licenciement. Et donc la question était de savoir si le licenciement était abusif, parce que fondé sur le port d'un signe religieux, ou légal, parce que le port de ce signe contrevenait au règlement intérieur qui prévoyait la neutralité religieuse. Et ça a donné un immense procès qui a été deux fois devant la Cour de cassation, jusqu'à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction. Finalement, on gagne. Et on gagne sur le fondement du principe de laïcité, de neutralité religieuse et de la liberté de choix que peut faire chaque entreprise de prévoir qu'en son sein, la religion ne doit pas être prosélyte et s'exprimer.
Mais quand vous défendez Clearstream contre un journaliste d'investigation, en quoi vous défendez une cause ou des idées ?
Alors, c'est ça, on me l'a beaucoup reproché. Pour moi, quand le dossier arrive, c'est un dossier comme un autre. Je suis avocat. Parfois, je défends des salariés. Les gens ont du mal à comprendre. Hein, ça, c'est le problème. Mais parfois, je défends des salariés, parfois des employeurs, parfois des coupables, parfois des victimes. On est avocat. Et par ailleurs, c'est important. Parce que sinon on défend mal. Non, mais si on voit pas les deux côtés.
Richard Malka, c'est peut-être pas une question que j'aurais posée à un autre avocat, puisque un avocat défend par principe.
Mais en fait, quand je défends la liberté d'expression, c'est pas une liberté d'expression absolue. Je n'ai jamais défendu ça, mais depuis même quand j'étais très jeune et encore plus idéaliste que je ne le suis aujourd'hui, il y a toujours des limites. Et donc, bien défendre la liberté d'expression, pour moi, c'est aussi évidemment réprimer les abus de la liberté d'expression. Et donc, si on traite quelqu'un, je sais pas moi, de pédophile, évidemment, si cette personne ne l'est pas, elle a le droit de faire un procès pour faire condamner en diffamation celui qui l'a calomnié et diffamé. Évidemment. Et je crois qu'aucun de nous ne pourrait dire le contraire. Et si ça arrivait à chacun de nous d'être calomnié, on trouverait tout à fait normal de pouvoir agir pour faire condamner celui qui calomnie. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. Il y a des limites. Et là, en l'occurrence, je considérais avoir un dossier où on était dans de la calomnie et pas du tout dans une investigation sérieuse. Voilà. Donc, pour moi, c'est un dossier comme un autre. J'ai pas conscience à ce moment-là de la charge. Et j'en ai fait d'autres, hein, des dossiers en demande de diffamation et d'injures, énormément d'autres, comme tous les avocats de presse. Parfois, on est en défense, parfois, on demande. Et c'est une nécessité. Sinon, encore une fois, on n'est pas un bon avocat. Il faut être passé des deux côtés. Donc, j'engage ces procédures, j'en gagne certaines, j'en perds d'autres. Au final, la Cour de cassation m'envoie balader. Mais c'est pas un dossier très très singulier pour moi.
Et alors, en quoi ces différents procès successifs ont contribué à forger vos convictions ? Est-ce que vous êtes nourri ? Est-ce que vous avez, au chemin faisant, changé d'avis au fil des affaires ?
Oui, parfois. Précisément parce que. Parce que quand je défendais Charlie Hebdo, j'étais tellement engagé, tellement proche d'eux, que parfois il a pu m'arriver de manquer de recul sur les causes que je défendais. J'ai un ou deux exemples en tête où j'ai été condamné pour Charlie, où je ne comprenais pas ces condamnations. Et 10-15 ans plus tard, je me suis dit, le tribunal a eu raison de nous condamner. On avait été trop loin. Donc, évidemment, on évolue. Normalement, dans le sens de la nuance et de la complexité. Il arrive que certains font le chemin inverse.
Mais justement, vous en avez parlé. Vous avez côtoyé les plus grands du métier, donc Kiegeman, qui a été quasiment votre père, et que vous avez défendu en marge de l'affaire Bettencourt. Vous avez côtoyé Olivier Metzner, qui était son adversaire préféré, quoi, avec une inimitié légendaire.
Ça a été un procès incroyable. Probablement un des plus durs pour moi, parce que je défendais quasiment mon père, qui était poursuivi en diffamation par Olivier Metzner. Georges avait dit des choses vraiment très dures sur Metzner, qui méritait de finir derrière les barreaux, enchaîné, comme un aigrefin qu'il était. Et avec la mesure qu'il caractérisait. Et donc, il avait été poursuivi en diffamation et je me retrouve à la 17e à le défendre. Et j'ai gagné. Et c'est une grande fierté d'abord parce que j'ai gagné pour Georges. Et ensuite, sur l'argument de la passion de l'avocat. Alors, oui, il était allé trop loin. Oui, c'était pas justifié. Mais la passion de l'avocat défendant son client. Excuser en gros ce qu'il avait dit et donc il a été relaxé et j'en ai été très heureux.
Vous avez été aussi très proche de Robert Badinter.
Oui.
À la fin, quel rapport est-ce que vous entretenez avec ces monstres sacrés de ce métier ? Et est-ce que Richard Malka au fond de vous, il y a une petite part où vous rêvez de les égaler, ou alors vous cultivez un peu votre excentricité, votre singularité.
Alors non, je rêve pas de les égaler parce que c'est le moi qui pense toujours être une imposture et qui se dit que c'est inégalable, qu'ils sont inégalables et ils le sont. Et j'en suis vraiment profondément convaincu. Jamais je n'égalerai l'art oratoire de Georges Kegeman, la culture universelle de Robert Badinter et de Georges Kegeman. En fait, ça n'existe plus, cette culture-là. Mais oui, vous avez raison. Probablement, je m'en suis sorti de ces comparaisons-là en cultivant une sorte de singularité, d'excentricité.
Et vous avez, Richard Malka, la reconnaissance de vos pères. Est-ce que c'est un marqueur de réussite, de légitimité?
Ah, ça, oui.
Est-ce que vous pensez que votre père, avec sa machine à coudre, en écoutant la radio, et il entendrait parler de Richard Malka, il se dirait...
Oui, il serait content.
Ah, il est juif, lui, il est juif.
Sûrement. Et ça me fait très plaisir.
Et après, dans ce métier d'avocat, entre guillemets, il faut trouver sa manière de plaider.
Oui.
Alors, vous reprenez à votre compte la phrase de Janson, « On n'écrit pas de bons livres avec des bons sentiments ». Avec quel sentiment écrit-on une bonne plaidoirie ?
La sincérité, la générosité. En tout cas, vous dites, il faut trouver sa manière de plaider. C'est vrai, c'est faux. Ça se trouve pas, en fait. Ça se construit pas. On plaide ce qu'on est.
On réussit avec qui on est, quoi.
Ouais. C'est pas ça. Là, il y a un moment. Ça ne marche que s'il y a une vérité qui s'exprime, que si vous trouvez votre modalité profonde. J'ai moins d'aisance que d'autres. J'ai peut-être moins de vocabulaire que d'autres. J'ai trouvé très vite. J'ai pas fait semblant, j'ai pas cherché une manière. Je pense pouvoir dire que vraiment je plaide comme je suis. Et du coup, il y a quelque chose qui passe. Il y a une intensité, mais c'est une violence. À chaque fois, je me demande pourquoi je m'impose ça, pourquoi je m'impose une souffrance pareille. Mais vraiment, parfois j'ai envie de fuir, de pleurer, d'aller dans les jupons de ma mère. C'est, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas naturel pour moi. C'est vrai. Et donc, c'est un travail colossal. Je travaille en fait 10 fois plus que n'importe qui d'autre. Ça m'angoisse tellement je suis obligé de tout écrire, mais jusqu'au moindre détail, pour me rassurer.
Parce que vous dites que vous souffrez quand vous plaidez.
Ah ouais.
Mais en quoi un procès, c'est une épreuve physique?
Mais j'y mets toutes mes tripes, pour le coup. Et c'est ça qui fait que ça, il y a quelque chose.
Mais qu'est-ce qui est le plus éprouvant au moment de plaider? C'est la scène, la responsabilité, le doute?
Alors, évidemment, il y a ce que vous portez sur les épaules. Ce que vous portez sur les épaules et qui peut être très lourd, les causes que quand je plaide pour le droit au blasphème, c'est lourd comme enjeu. Ça décide du rapport d'une société à la liberté d'expression. Quand je plaide pour Babylou, c'est extrêmement lourd. Ça y a un impact sur le réel qui est immédiat. Et puis au-delà de ça, il y a quelque chose de plus narcissique probablement, qui est je ne peux pas décevoir. Je ne peux pas décevoir Georges Kegeman, Elisabeth Badinter et évidemment mes parents.
En tout premier.
Évidemment. Oui. En fait, ils sont des images parentales. Et il y a le complexe, il y a mon complexe social là qui joue. Et qui me pousse encore plus loin dans l'impossibilité de décevoir. C'est comme l'impossibilité de redoubler dans mon enfance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Je ne peux pas faillir, trébucher. Et donc ça fait une pression que je me mets à moi-même et qui est violente. C'est violent. C'est physiquement violent. Parfois, j'en tombe malade. Souvent.
Vous tombez malade pendant les procès.
Les caricatures, le procès des attentats de Charlie en 2020, j'y suis allé en béquille la veille. J'étais transporté en ambulance pour me faire une injection pour pouvoir tenir debout. Parce que mon dos, parce que mon, j'avais une hernie discale, en fait, à chaque fois que je plaidais Charlie Hebdo, ou des gros procès. Donc oui, oui, c'est violent. C'est physiquement violent.
Donc votre maison, c'est la 17e chambre, donc la chambre de la presse, où vous plaidez depuis des décennies maintenant.
Oui.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non.
Est-ce que la liberté d'expression est plus fragile aujourd'hui que quand vous avez commencé à plaider dans cette chambre?
Alors, en fait, j'ai connu, moi, je vous parlais de parenthèse enchantée, quand j'arrive, donc quand je deviens un avocat en 92, on est au début d'un mouvement jurisprudentiel de protection de plus en plus grande de la liberté d'expression. En 92, il y a encore des condamnations lourdes. Il y a encore des livres qui sont interdits. Et puis arrivent les guignols de l'info, Charlie Hebdo, qui reparaît. Et là, on va impulser, mais parce que c'est l'air du temps, un mouvement jurisprudentiel qui va être de plus en plus protecteur. Et donc, j'ai vécu ce mouvement de... Et Cabu disait, mais je comprends pas, parce que avant, quand j'étais poursuivi par l'armée, je parlais tout le temps dans le premier Charlie Hebdo dans les années 70. Et j'en ai été condamné hyper lourdement. Et y compris avec des interdictions, tragiques à Colombey. Et maintenant, je gagne tout le temps dans le nouveau Charlie Hebdo. Effectivement, entre-temps, étaient passées quelques années. On a échangé d'époque. Et ce mouvement-là, je l'ai vécu. Et pendant 10 ans, c'était de plus en plus protecteur. Jusqu'à un moment où on disait, on peut à peu près tout caricaturer, tout faire, tout dire. Vraiment, on peut y aller. Toujours avec des limites, mais on peut aller très loin. Et puis, au tournant des années 2000, on a senti... que ça commençait à bouger dans l'autre sens, pas en droit, pas dans les salles d'audience. Là, ce mouvement-là, il ne s'est jamais arrêté. Mais dans la société. Avec une tension sur les sujets religieux.
Et est-ce que les réseaux sociaux ont changé la nature des procès, ou seulement leur vitesse et leur violence?
Oui, ça a changé. Oui, parce qu'on passe de la presse, ou même de la mauvaise presse, il y a quand même un semblant d'enquête, quelque chose d'approfondi, des gens qui sont interviewés, aux réseaux sociaux, là c'est n'importe quoi, où c'est le café du commerce, où tout le monde écrit ce qui lui passe par la tête, c'est autre chose. Donc ça change la nature des procès nécessairement.
Eh bien, on arrive au terme de ce second épisode, et oui. On a abordé ensemble un certain nombre d'affaires qui vous ont forgé en tant qu'avocat. Mais la grande affaire de votre vie, c'est sans doute Charlie Hebdo, qui vous occupe depuis le début de votre carrière. Ça sera l'objet de notre troisième épisode d'Avoix Nues, pour lequel nous nous retrouvons demain, Richard Malka. Alors à demain.
À demain.
À suivre, épisode 3, l'aventure Charlie Hebdo. C'était Avoix Nues, réalisation Charlotte Roux, prise de son Maëlle Larfassor, chargée de programme Daphné Abgral. Une série d'Alexandre Amiel disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.